Vous écoutez
RMC.
Soyez les bienvenus dans la matinale week-end d'RMC, il est 8h.
RMC, la matinale week-end.
Bon réveil à tous, c'est l'heure de retrouver Victor Pourchet pour le journal. Bonjour Victor.
Bonjour Anaïs et bonjour à tous. À la une, Marie vous le disait dans la météo, c'est l'été en avril. Les températures vont frôler les 30 degrés par endroit. Tant mieux pour les vacanciers, c'est tout le contraire pour les viticulteurs, vous l'entendrez. Dans l'actualité également, c'est pour bientôt les mots de Joe Biden sur une attaque de l'Iran en Israël. Les États-Unis qui renforcent leur présence militaire sur place. Et puis en basket, la capitale sur le toit de l'Europe, seulement 6 ans après la création du Paris Basketball.
Et d'abord, en ce 13 avril, vous pouvez quand même vous découvrir d'un fil.
Parce qu'il fera exceptionnellement chaud aujourd'hui un peu partout en France. 25 à Paris, on va flirter avec les 30 degrés dans le sud. Cette chaleur, elle inquiète les viticulteurs de l'Aude. Le yo-yo des températures affecte leurs vignes. Le reportage à La Palme, près de Sigean, signé Jean-Wilfried Forquès.
Dans les vignes de Bernard Hernandez, les variations de température sont importantes. Et cela a une conséquence à laquelle le viticulteur ne s'attendait pas, traiter ses parcelles plutôt que d'habitude.
Comme on a des yo-yo de température, on est obligé de surveiller la végétation et la chaleur de la journée fait pousser énormément les vignes et la nuit avec la baisse des températures, ça favorise le développement d'une maladie qui s'appelle l'oïdium et qui met en péril la récolte future.
Comme Bernard, tous les viticulteurs du secteur sont confrontés à cette nouvelle contrainte climatique. C'est le cas de Benoît Girard qui possède 30 hectares. Lui aussi est obligé de pulvériser son vignoble et tout cela n'est pas gratuit.
C'est un coût supplémentaire sur notre exploitation, moins de 20 à 30% et on va être obligé de passer plus souvent jusqu'à la fin de la période de traitement pour avoir un résultat de récolte important.
Et ce traitement, bien sûr, est vital pour les viticulteurs de la région. Certains d'entre eux, l'an dernier, en raison de la sécheresse, ont perdu 70% de leur récolte.
Et pour les vacanciers dans le sud-ouest qui vont profiter de la chaleur pour aller se baigner, attention à cette alerte aux baïnes, ces courants marins qui vous emportent vers le large. Les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde et la Charente-Maritime sont en vigilance maximale aujourd'hui. Dans l'actualité également, quatre membres d'une même famille mis en examen dans l'affaire Zakaria, ce jeune de 15 ans poignardé à mort à Romans-sur-Isère cette semaine en séparant une bagarre. Un jeune est poursuivi pour assassinat, son frère, son père et le gendre pour complicité. Tous sont en détention provisoire.
8h02, pérenniser le paiement des courses en tickets restaurants, c'est ce que souhaite Olivia Grégoire.
La mesure est pour le moment provisoire, elle doit s'arrêter à la fin de l'année. Mais sur RMC hier, la ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation disait penser à l'inscrire dans une réforme attendue à la fin du mois. Solène Gardray à Paris, ce dispositif anti-inflation divise les restaurateurs et les bénéficiaires.
Oui, à l'image de Georges, ce père de famille espère vraiment que la mesure sera maintenue.
Les prix de l'alimentaire augmentent beaucoup. Les prix des restaurants, même des restaurants petit budget, comme on dit, ça a beaucoup augmenté. Les tickets resto, ça permettait de s'y retrouver un petit peu.
Pareil pour Jérôme, il travaille dans un quartier cher et préfère largement préparer son repas chez lui plutôt que dépenser au restaurant.
Quand on prenait au resto, c'était sur les Champs-Élysées. Donc effectivement, les prix autour, à moins d'aller chercher vraiment loin, n'étaient pas du tout les mêmes que ce qu'on pouvait avoir en préparant quelque chose chez soi et en le ramenant au travail ensuite.
Comme lui, 96% des salariés souhaitent la pérennisation de cette mesure. D'après un sondage de la Commission nationale des titres restaurants, mais de nombreux restaurateurs sont opposés à cette idée.
C'est une des choses qui fait que les restaurants, dernièrement, travaillent moins.
Déplore Anis, gérant d'une boulangerie.
Moi, j'ai beaucoup de bureaux juste à côté. Avant, je travaillais très bien avec eux. Là, je travaille moins parce qu'ils préfèrent aller dans les grandes surfaces.
En 2023, le manque à gagner pour les restaurateurs était de 200 millions d'euros, selon l'UMI, l'Union de l'hôtellerie-restauration.
Solène Gardray pour RMC. C'est une toute autre volonté du gouvernement, une toute autre mesure. Traquer les violences sexuelles dans l'armée. Une mission d'inspection a été lancée hier par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Ces dernières semaines, des témoignages ont fait surface. L'objectif, Lucille Pascanet, c'est de lutter contre ce problème dit systémique dans l'armée française.
Oui, l'idée de cette inspection, c'est de faire un état des lieux pour permettre à terme d'améliorer la prévention contre les violences sexuelles et la prise en charge des victimes, mais aussi de renforcer la cohérence des sanctions contre les agresseurs et d'assurer leur application. C'est un bon début pour Élodie Mémon, avocate spécialiste des violences sexuelles dans l'armée.
C'est un premier pas à reconnaître qu'on est malade, c'est déjà prendre conscience qu'il y a une difficulté et qu'on va soigner la maladie. C'est une satisfaction, hein, que les choses bougent, que la grande muette se mette en œuvre de bataille, si je puis dire, et que les ministres donnent cette instruction-là avec ce message fort. Maintenant, les attentes sont nombreuses des victimes, de tous ceux et celles qui les accompagnent, qui les suivent, et on ne lâchera pas. Tout le monde sera très attentif au travail de l'inspection générale des armées, aux conclusions et aux mesures qui suivront.
Cette inspection devrait se dérouler pendant un peu plus d'un mois. Elle rendra son rapport fin mai.
Lucille Pascanet, on parlait du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, dévoilait aussi hier que 2000 militaires étrangers seront déployés pour sécuriser les Jeux Olympiques.
Direction le Proche-Orient, au bord de l'embrasement, l'Iran est sur le point d'attaquer Israël, selon Joe Biden.
Téhéran qui promet depuis plusieurs jours, je cite, de punir Tel Aviv. Depuis qu'une frappe a touché son ambassade en Syrie, il l'impute à Hatzal. Antoine Hollard, vous êtes à Washington. Dans les mots du président américain Joe Biden, on comprend que l'attaque semble imminente.
Oui, exactement. Et les États-Unis ont envoyé des renforts supplémentaires au Moyen-Orient. Et il y a clairement la volonté pour les Américains de montrer les muscles et d'envoyer un message à Téhéran, une façon de dire aux Iraniens, ne vous avisez surtout pas d'attaquer Israël, parce que dans ce cas-là, vous aurez face à vous l'armée américaine. Message relayé par Joe Biden devant des journalistes hier. Ne le faites pas, dit-il, à l'Iran. Alors pour le moment, les États-Unis sont vraiment dans une posture de dissuasion. Joe Biden redoute par-dessus tout un embrasement de la région. C'est sa principale crainte, son obsession même depuis le 7 octobre. C'est vrai qu'on est en année électorale aux États-Unis et Joe Biden le sait, si l'Iran attaque Israël, alors les États-Unis n'auront pas le choix, ils devront intervenir et c'est le scénario que Joe Biden veut à tout prix éviter à quelques mois à des élections.
Merci Antoine Hollard, le correspondant à BFM TV et RMC à Washington.
On passe au sport et au basket. Paris champion d'Eurocoupe hier soir.
La petite Coupe d'Europe, victoire à Bourg-en-Bresse lors du match 2 des finales, 89-80, les Parisiens qui soulèvent un deuxième trophée, le tout en 6 ans à peine après la création du club. Arnaud Valadon.
Le traditionnel We Are the Champions au moment de soulever le trophée. Malgré l'ambiance hostile de Bourg, le public applaudit fair play. Déjà vainqueur de la Leaders Cup en février, Paris et son co-capitaine Michael Kessens remportent un deuxième titre en 2 mois.
Ben c'est énorme, je pense. La Leader Cup, déjà, c'est un gros titre pour le club, le premier. Celui-là, c'est un titre européen, donc c'est encore quelque chose d'autre. C'était notre objectif, on va pas se le cacher. Pour le club, c'est un grand pas vers une culture de gagnant.
Nadir Hifi, auteur de 14 points, voulait exulter à sa façon.
Je voulais prendre le ballon pour le jeter en l'air à la fin.
En interview, l'arrière spectaculaire avait la tête et sa chevelure imposante pleine de paillettes.
En tout cas, ces confettis valent cher. Je sais pas quand je vais me laver. Je pense qu'on va profiter au maximum de cette magnifique soirée. On va tout faire pour gagner le championnat aussi.
Après avoir obtenu un ticket pour l'Euroleague la saison prochaine, la plus belle compétition européenne, Paris, deuxième du championnat, ne s'interdit pas de rêver d'un troisième trophée.
Arnaud Valadon pour RMC. Je vous signale qu'en foot et en Ligue 1, Lens a perdu 2-1 contre le mal classé Metz hier soir. Deux rencontres au programme aujourd'hui à 17h, Strasbourg-Reims, Rennes-Toulouse à 21h. Et puis, c'est quelque chose que vous entendez sûrement trop souvent à votre goût.
Votre attention s'il vous plaît. Notre train circule actuellement avec un retard d'environ 1 heure.
Ah là là, l'angoisse. Je prends le train demain, me portez pas la poisse, Victor.
Écoutez bien, parce que le journal parisien a compilé aujourd'hui les résultats de lignes régionales les plus en retard en 2023. Ah, le podium.
Écoute.
Paris-Tours en numéro 1, numéro 2, Lyon-Paray-le-Monial, en numéro 3, Bayonne-Tarbes. Alors c'est très serré hein, entre les 3 et même entre les 5 premiers du classement. Globalement, c'est un quart de train en retard ou annulé. C'est des chiffres sans la région PACA, il faut le signaler, parce qu'elle n'a pas transmis ces données au journal.
Voilà, merci, bah, ou pas merci, parce que si vous m'avez porté la poisse...
Vous me direz.
Exactement, vous pouvez vous attendre à un coup de fil énervé demain, parce qu'il faudra s'en prendre à quelqu'un, évidemment. Merci beaucoup, Victor. Tiens, je vous rappelle qu'Emmanuel Macron est l'invité d'Apolline lundi matin à partir de 8h20 pour parler des JO de Paris, de l'organisation de la sécurité, de toutes les questions que vous vous posez. D'ailleurs, si vous avez une question pour le président, vous l'envoyez à l'adresse suivante, vosquestions@rmc.fr. Et puis, ce matin, on a des places aussi pour les Jeux Olympiques. 100 places à remporter dans les shows d'RMC pour la cérémonie d'ouverture, le judo, le tennis de table, j'en passe. Tout ce qui vous plaît, hein. Envoyez Paris 2024 au 732-16, Paris 2024 au 732-16 pour tenter de remporter, tiens, 2 places. On aura un premier gagnant avec nous à 9h08 ce matin. Et puis un autre cadeau à gagner ce matin sur RMC.
RMC, la matinale week-end.
Le 10 minutes chrono.
Celui du 10 minutes. Et oui, et ce week-end, vous allez remporter un séjour de 2 nuits pour 2 personnes au château de Pizet, un hôtel 4 étoiles au cœur d'un des plus grands domaines viticoles entre Brouilly et Morgan, à seulement 40 minutes de Lyon. Vous allez pouvoir vous détendre au spa, découvrir les crues du domaine, vous initier à l'œnologie avec un parcours œnosensoriel au milieu de 80 hectares de vignes. Pour remporter votre séjour au château de Pizet, c'est très simple. Appelez le 3216, touche 4, ou envoyez le mot matin au 73216. Matin au 7-32-16. Bonne chance à vous. Le gagnant sera avec nous à 8h25 sur RMC.
À suivre dans la matinale week-end.
Vous restez avec nous parce qu'on a un super programme ce matin sur RMC à 8h40. On va parler du yo-yo, des températures quasiment 30 degrés, 29 attendus dans le sud aujourd'hui. C'est ce que nous disait Marie. On sera avec Serge Zaka tout à l'heure, agroclimatologue, pour voir les conséquences sur le vivant, sur les cultures. Ce sera à 8h40. À 8h20, la Story Sport avec Arthur Jean. On parle de golf aujourd'hui.
Ouais, ce matin, je vous emmène sur les terrains de golf faire la connaissance du meilleur golfeur français. Rien que ça, il s'appelle Mathieu Pavon. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, il casse tout sur le circuit mondial.
Beau programme, rendez-vous à 8h20. Arthur, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant avec un motard en colère contre le contrôle technique des deux roues qui doit commencer ce lundi. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h30, la matinale week-end. RMC jusqu'à 9h30, la matinale week-end.
Bienvenue, Alice Castagna. Vous écoutez la matinale week-end, il est 8h13 et le témoin RMC ce matin, c'est Jean-Marc Bellotti, coordinateur de la Fédération des motards en colère de Paris et sa petite couronne. Pour parler du contrôle technique des deux roues qui va devenir obligatoire à partir de lundi, mesure que les motards ont bien du mal à accepter, des manifestations ont lieu dans tout le pays aujourd'hui, Paris, Toulouse, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Lyon, Clermont ou encore Toulon, à l'appel de votre fédération. Jean-Marc Bellotti, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin sur RMC. Vous appelez à boycotter le contrôle technique des deux roues motorisées. Pourquoi ?
Alors oui, on appelle à un boycott total du contrôle technique parce que nous estimons que c'est une mesure totalement inadaptée pour les deux roues motorisées et un racket supplémentaire. Il faut savoir que nos chers amis automobilistes nous disent « Écoutez, nous, on a le contrôle technique, pourquoi pas vous ?» La réponse, elle est simple. En 1992, lorsque le contrôle technique a été mis en place pour les voitures, il y avait plus de 17% des véhicules qui étaient impliqués dans des accidents très graves à cause de leur mauvais état. En deux roues motorisées, ce n'est pas du tout le cas, puisque le parc deux roues motorisées roulant est très bien entretenu. Et c'est que 0,3% des cas de véhicules qui sont impliqués dans un accident à cause de leur mauvais état. Et ça, ce sont des statistiques d'assurance, l'assurance mutuelle des motards, qui quand même, je le rappelle, les assureurs, quand il y a des dégâts matériels ou corporels, c'est eux qui payent. Hein. Donc vous imaginez bien que l'assurance mutuelle des motards, elle ne dirait pas n'importe quoi. Et si elles annoncent que c'est 0,3% des véhicules qui sont impliqués en deux roues motorisées, c'est que c'est la réalité. Et donc j'ajouterais qu'on veut nous vendre le contrôle technique pour la sécurité routière des usagers de deux roues motorisées. Et que depuis plus de 10 ans, environ 10 ans, nous avons moins de 19% de morts sur les routes en usagers de roues motorisées.
Alors ça, ce sont les chiffres qui sont importants, hein, Jean-Marc Bellotti.
Oui,
mais il n'y a pas que ça qui compte. Je lis le témoignage, parce que depuis ce matin, on appelle nos auditeurs à témoigner. Et on a Guillaume qui réagit sur l'appli RMC. Je suis motard et pour le contrôle technique, j'entretiens ma moto, mais j'ai eu un problème de roue arrière et c'est justement une personne d'un contrôle technique automobile qui m'a dit le souci. Sans ça, les rayons auraient cassé. Il dit, on parle de 50, 60, 70 euros tous les 2-3 ans, en l'occurrence. Ça ne devrait pas être un problème pour lui. Quelle est votre réaction ?
Alors, je suis extrêmement étonné que ce motard dise que les rayons ont failli casser, parce que alors là, vous savez, c'est pareil, sur un deux roues motorisé, n'a rien à voir avec une voiture, et on sent tout de suite s'il y a un problème, surtout si c'est des rayons, parce que ça veut dire que si c'est des rayons, la moto, elle se balade dans tous les sens, impossible de rouler avec une moto qui a des rayons en mauvais état, et pour nous, la sanction, elle est immédiate. Donc, j'y crois assez peu quand même, parce que des rayons sur une moto qui casserait, je peux vous dire que la moto, elle pourrait pas tenir la route. Et ça veut dire que là, il a eu un problème s'il ne s'est pas arrêté tout de suite.
Ce que vous voulez, c'est que le décret...
Non, en réalité, les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Vous, Jean-Marc Bellotti, ce que vous voulez, c'est que le décret qui rend obligatoire le contrôle technique pour les deux roues à partir de lundi soit abrogé. Franchement, à 2 jours de l'entrée en vigueur de la mesure, est-ce que vous y croyez ? Est-ce que c'est réaliste, selon vous, d'obtenir l'abrogation de ce décret ?
Ah ben... Je vous entends très mal, mais si je comprends bien la question, oui, bien sûr, nous y croyons, hein, sinon on ne serait pas là en train de faire des manifestations. Je vous rappelle que nous avons aussi lancé deux recours auprès du Conseil d'État pour faire annuler cette procédure. Et nous avons aussi lancé une grande campagne Internet qui s'appelle Balance ton centre, qui consiste à boycotter les centres de contrôle technique qui font de la voiture et de la moto, et dire aux usagers de deux roues motorisées qui sont à 95% propriétaires d'une voiture, hein, c'est le cas, leur dire attention, quand vous avez votre voiture à passer au contrôle technique, passez-la uniquement dans les centres de contrôle technique qui font de la voiture et boycottez ceux qui font de la voiture et de la moto. Bon, ça c'est une première chose, plus le boycott total du contrôle technique. Nous appelons les motards à ne pas aller au contrôle technique.
Pourquoi vous appelez au boycott de ces centres? Là, on a un petit souci, je ne sais pas si c'est de votre côté. Petit souci technique, Jean-Marc Bellotti. Est-ce qu'on vous a récupéré?
Oui, je suis là. Oui. Ouais. Bien, on appelle au boycott de ces centres parce qu'on veut toucher au portefeuille. Hein, vous savez, on se bat à tous les niveaux, nous, hein, aussi dans la rue, on se bat au niveau administratif et juridique, et on va taper aussi au portefeuille des gens qui veulent faire du contrôle technique auto et moto. Déjà, il y en a pas mal qui veulent pas y aller, il y en a pas mal qui se demandent s'ils vont y aller ou pas, et donc le fait de taper au portefeuille et de leur dire vous allez perdre tous les motards qui ont une voiture, ben, ça peut justement jouer dans la balance. Mmh. D'ailleurs, ça joue dans la balance parce que les grands patrons des centres de contrôle technique nous ont contactés, ils ont une peur bleue de cette opération qu'on mène sur Internet qui est d'envergure nationale.
Il faut quand même rappeler que la France est l'un des derniers pays européens à mettre en place cette mesure, après la Belgique il y a quelques mois. Bon, est-ce qu'il ne serait pas temps justement d'avancer? Ouais, ils ont très compliqué hein, avec...
sur quelque chose qui ne sert à rien.
Allez-y, je vous entends, Jean-Marc Bellotti.
Non. Oui, pourquoi voudrait-on avancer sur quelque chose qui ne sert à rien? C'est-à-dire, on ne va pas avoir un contrôle technique par principe. C'est ridicule. On voit que toutes les statistiques sont avec nous et que le contrôle technique de roues motorisées ne sert à rien. On ne voit pas pourquoi on va nous imposer un contrôle technique. Donc nous, on se bat évidemment contre ça. Je vous rappelle quand même que quand on parle du bruit, le bruit, en Allemagne, ça fait 20 ans qu'ils ont le contrôle technique et ils sont en train de vouloir fermer des cols de montagne parce qu'il y a des motards qui font trop de bruit. Eh bien, arrêtons les motards qui font du bruit, mettons-leur une grosse amende et puis voilà, mais ne faisons pas payer toute la communauté. D'autant plus que vous pouvez très bien arriver au contrôle technique avec un pot d'échappement tout à fait conforme et puis en ressortant, 15 minutes, vous avez changé votre pot d'échappement pour en avoir un.
Problème technique avec Jean-Marc Bellotti, coordinateur de la Fédération des motards en colère de Paris, et sa petite couronne. Décidément très en colère hein, ce matin sur RMC, vous l'aurez compris. Énormément de manifestations aujourd'hui. Peut-être que vous allez y participer. Tiens, vous nous dites hein, ce matin sur RMC, vous êtes au 32-16 sur l'appli. Dites-nous si vous allez boycotter ce contrôle technique. Il y a un risque, hein, un risque d'amende de 135 euros quand même, on le rappelle. On vous attend tout au long de la matinée au 32-16, 8h19. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant pour la Story Sport avec Arthur Jouan tout de suite.
RMC, la matinale week-end.
Anaïs Castagna.
L'histoire sport du jour avec Arthur Jean.
RMC,
la story sport.
Et bonjour Arthur Jean. Ce matin, vous nous parlez du meilleur golfeur français. Il s'appelle Mathieu Pavon, 31 ans, et il dispute en ce moment même le Masters d'Augusta aux États-Unis.
Oui, c'est ça, tout à fait. Il est dans l'état de Géorgie en ce moment, à Augusta, dans l'Ain, voire peut-être le club de golf le plus select de la planète. C'est ici que tout a commencé. On est en 2009. La maman de Mathieu, Béatrice, elle enseigne le golf. Elle est même vice-championne de France junior. Bref, vous l'avez compris, l'amour du golf, ça ne sort pas de nulle part dans la famille. Donc c'est il y a 15 ans, sur ce même tournoi d'Augusta, que cette dame, en fait, elle décide d'enterrer une pièce sous un chêne. Son rêve, à ce moment-là, c'est de voir son fils batailler avec les plus grands golfeurs du monde sur le green. Eh bien, ça y est, depuis jeudi, son rêve, il est devenu réalité.
Non.
Mathieu Pavon se mesure au plus grand. Il joue à Augusta, il en fait même partie d'ailleurs. Il est 25e mondial en ce moment, à la lutte avec les meilleurs mondiaux, Rory McIlroy, John Rahm, Bryson DeChambeau. Et en plus, il croit en ses chances. C'était sur RMC, justement, écoutez.
Il y en a peu qui, après leur première participation, sont repartis avec le trophée. Mais bon, rien n'est impossible. Je pense que je me suis surpris moi-même ces 6 derniers mois. Et pourquoi pas se surprendre une fois de plus.
Ce serait dingue. Hein. En tout cas, lui, il y croit et il a raison. Parce que ça fait quelques mois qu'il casse tout sur le circuit mondial. Fin janvier, il remporte le tournoi de Torrey Pines en Californie. Cela faisait, écoutez bien, 117 ans qu'un Français n'avait pas remporté une étape sur le circuit américain. Ça vous place un peu le personnage.
Ah hein. Oui.
Et le pire dans tout ça, c'est qu'il débute tout juste avec le gratin mondial. Hein. Avant, ça faisait 7 ans qu'il arpentait les terrains en Europe. En octobre 2023, il remporte même l'Open d'Espagne. C'est là où il commence à se dire qu'il y a peut-être quelque chose de sérieux à jouer. Et toujours dans l'optique de batailler avec les meilleurs. C'était même pas lui qui le dit. C'est son papa, Michel, milieu de terrain emblématique des Girondins de Bordeaux. Cela dira peut-être quelque chose aux supporters bordelais qui nous écoutent, Michel Pavon. Il parlait de son fils, d'ailleurs, dans le podcast golf de RMC, justement.
Lui, ce qui l'intéresse, c'est pas ça. C'est jouer les plus grands joueurs mondiaux, et les battre. Il n'est pas dans le but de se dire ah, « si je fais ça, j'arrive là ». Non, lui, il veut jouer tous les week-ends contre les plus forts et essayer de les battre. Et ça, c'est énorme.
Le podcast golf de RMC le pratique d'ailleurs à réécouter sur toutes les plateformes. Donc voilà, c'est énorme. En tout cas, ça pourrait même l'être encore plus cet été, puisque oui, comme bon nombre de sportifs français, l'objectif de Mathieu Pavon est de se qualifier et de performer, évidemment, sous le maillot bleu aux Jeux Olympiques de Paris. Et avec la Française Céline Boutier, qui a réalisé une année 2023 exceptionnelle, une année où elle termine 3e mondiale, on peut, je pense, mettre une petite pièce sur le golf français en juillet prochain.
Ah ben on va suivre ça, évidemment. Il a de la chance d'avoir une maman comme ça, mais moi, je trouve ça génial. La maman qui a enterré une pièce sous un chêne et là, voilà, qui fait partie des plus grands et qui lui a tout appris, évidemment.
Le destin.
Évidemment, mais pourquoi ma mère n'a pas fait ça? Ça aurait tout changé. Je vais peut-être faire ça pour ma fille, t'as tout à l'heure.
Mais ah oui,
me donner l'idée.
Une petite idée.
Merci beaucoup, Arthur, pour la story sport à retrouver, évidemment, en podcast sur l'appli RMC. C'est l'heure de découvrir le nom du gagnant du 10 minutes chrono.
RMC, la matinale week-end.
Le 10 minutes chrono.
Est-ce qu'on a un gagnant avec nous? Un gagnant ou une gagnante ce matin? Parce qu'on avait un très beau cadeau à remporter.
Oui, c'est ça. On devait gagner un séjour de 2 nuits pour 2 personnes au château de Pizé, un hôtel 4 étoiles au cœur d'un des plus grands domaines viticoles entre Brouilly et Morgan, à seulement 40 minutes de Lyon. Donc, dans le package, en fait, les gagnants vont pouvoir se détendre au spa, découvrir les crues du domaine, s'initier à l'œnologie avec un parcours œnosensoriel au milieu de 80 hectares de vignes. Ça vous tente. Hein,
bah sens, oui, hein. Mais c'est pas moi qui ai gagné, c'est Arnaud.
Ah.
Salut Arnaud, comment ça va? Bravo!
Ça va très très bien,
Eh, j'imagine, beau cadeau.
Je vous écoute depuis très très longtemps, je joue très souvent à vos jeux et c'est la première fois que je gagne un beau cadeau comme ça, donc je suis vraiment super content.
Comme bah, vous ne jamais abandonner. Hein.
Exactement, vous avez déjà gagné mais des petits cadeaux, genre des t-shirts.
Ah, des petits, alors ouais. Moi en fait j'écoute RMC depuis très longtemps, à l'époque où il y avait les DKP, avec Guy Kedia, Alexandre Delperrier.
Voilà, même moi je vois pas.
Peut-être.
Ouais.
Ça fait 25 ans peut-être. Et j'ai déjà gagné énormément de places de foot, un téléphone portable une fois, des choses comme ça. Donc vraiment, mais à l'époque, il y avait moins d'auditeurs. Donc on avait beaucoup plus
Arnaud, vous voyez, vous êtes la preuve que la fidélité sur RMC, c'est toujours récompensé. Je suis vraiment ravi. D'autant
merci
que je
beaucoup.
Sens vraiment que vous êtes heureux de recevoir ce cadeau, ce séjour donc de 2 nuits pour 2 personnes. Vous savez avec qui vous allez partir?
Ah oui, avec Claire, ma compagne.
Eh ben super, profitez-en. Une petite carte, si vous le pouvez, ça nous ferait plaisir à toute l'équipe. À Mathieu
soucis.
Aussi, qui est en vacances, en train d'en profiter, mais qui sera ravi d'avoir votre petite carte. Profitez-en,
ça
Arnaud.
Marche.
Et vous
c'est
voyez
génial.
Donc, la fidélité est toujours récompensée sur RMC. Il est 8h26.
Le 10 minutes chrono sur RMC avec le château de Pizet. Passez un séjour avec initiation à l'œnologie au château de Pizet, hôtel 4 étoiles et domaine vinicole situé au cœur du Beaujolais.
Allez, reste avec nous à 8h40, on va parler du yo-yo des températures. Chaud le week-end dernier, baisse en début de semaine, à nouveau chaud ce week-end, quasiment 30, 29 aujourd'hui dans le sud. Ça interroge, quelles conséquences sur les cultures françaises? On sera avec l'agroclimatologue Serge Zaka pour en parler. D'abord une courte pause, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. À tout de suite.
RMC,
la matinale week-end.
8h29, vous écoutez RMC, un point sur la météo, il fera chaud.
Oui, il va faire chaud puisque les températures sont encore bien au-dessus des normales de saison. Il fera entre 8 et 12 degrés de plus. Ce matin, il fait bien doux, hein, entre 16 et 14 degrés, mais c'est cet après-midi que ça grimpe. Il fera jusqu'à 27 sur la moitié nord et 29 sur la moitié sud. 17 à Brest, 22 à Nantes, 25 en Ile-de-France, Strasbourg et Marseille, 27 à Grenoble et Biarritz et 29 à Montélimar. C'est des températures qui seront encore chaudes, hein, demain dans l'Est, mais qui devraient chuter drastiquement dès la semaine prochaine sur
sur tout le pays. On passera même en dessous des normales de saison. Et côté ciel, du coup, il va faire beau ce matin, avec par contre quelques poches de brouillard dans le sud du Finistère, jusqu'à l'estuaire de la Loire, dans les Ardennes, le sud de l'Île-de-France et dans la vallée de la Garonne. Et quelques nuages plus persistants sur la pente bretonne. Cet après-midi, les nuages seront toujours présents sur les côtes de la Manche. Mais partout ailleurs, c'est le soleil qui vous accompagnera, malgré un léger voile nuageux qui persistera sur la moitié nord, mais pas assez épais pour cacher le beau temps, rassurez-vous. Merci Marie, soyez les bienvenus sur RMC. Merci de nous rejoindre, il est 8h30. L'heure pour vous de ne rien manquer de l'actualité. Tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut entendre ce matin, toute l'actu en 5 minutes avec vous, Clara Gabier, bonjour.
Bonjour Anaïs, bonjour Marie, bonjour à tous. Une mission d'inspection pour faire la lumière sur les violences sexuelles dans l'armée française. Les motards se mobilisent partout en France aujourd'hui contre le contrôle technique obligatoire pour les deux roues à partir de lundi. Et puis le coup de gueule d'Antoine Comboiré, entraîneur du FC Nantes, alors que des matchs ont été reportés pour les clubs encore en lice en Coupe d'Europe.
Une mission d'inspection sur les violences sexuelles dans l'armée a été lancée par le gouvernement.
Annonce du ministre des Armées Sébastien Lecornu et de la secrétaire d'État aux anciens combattants Patricia Mirallès. Dans le sillage du MeToo des armées, avec les nombreux témoignages publiés ces dernières semaines, objectif, évaluer la situation, améliorer la prévention, la protection des victimes et les sanctions contre les agresseurs. C'est essentiel selon Laetitia Saint-Paul, députée Renaissance et officier de l'armée française.
Malheureusement, ce ne sont pas des cas isolés, c'est vraiment un mode d'action. Un cadre qui s'en prend à une jeune victime, qui lui explique que sa parole de toute façon ne sera jamais crédible puisque lui est en position de force. Et les agresseurs restent au sein de l'institution. Il y a le jeu des mutations qui fait qu'il n'y a pas de mémoire. Et malheureusement, c'est des agresseurs qui multiplient le nombre de victimes parce qu'ils ne sont pas virés, tout simplement. Donc, ce n'est pas une tempête à traverser, mais bien un chantier à construire.
Des motards dans la rue aujourd'hui à Paris, Lyon ou encore Montpellier, en colère contre le contrôle technique sur les deux roues qui sera rendu obligatoire dès ce lundi. Une mesure qu'ils jugent inutile et coûteuse et que Jean-Marc Bellotti appelle à boycotter. Il est le coordinateur de la Fédération française des motards en colère de Paris.
Nous estimons que c'est une mesure totalement inadaptée pour les deux roues motorisées et un racket supplémentaire, puisque le parc deux roues motorisées roulant est très bien entretenu. Et c'est que 0,3% des cas, de véhicules qui sont impliqués dans un accident à cause de leur mauvais état. On veut nous vendre le contrôle technique pour la sécurité routière des usagers de roues motorisées. Et que depuis plus de 10 ans, environ 10 ans, nous avons moins de 19% de morts sur les routes en usagers de roues motorisées. On ne va pas avoir un contrôle technique par principe. C'est ridicule.
Jean-Marc Bellotti, invité ce matin de RMC. La crainte d'une attaque imminente de l'Iran contre Israël. L'alerte a en tout cas été donnée par le président américain Joe Biden, qui s'attend à ce que l'Iran passe bientôt à l'action et envoie donc des renforts au Moyen-Orient. Téhéran avait promis de riposter après un raid meurtrier contre un bâtiment diplomatique iranien en Syrie il y a moins de 15 jours. La menace iranienne de plus en plus inquiétante, selon Guillaume Lagan. Il est enseignant à Sciences Po Paris et spécialiste des questions de défense.
C'est une menace très sérieuse parce que Israël, depuis le 7 octobre, est traumatisée par ce qui pourrait lui arriver. Elle a déjà annoncé qu'après le Hamas, elle voudrait régler le problème du Hezbollah. Et derrière le Hezbollah, il y a l'Iran. Ensuite, parce que l'Iran est un régime qui n'est pas très populaire chez lui, dans sa population. Donc elle peut avoir intérêt, notamment pour rehausser sa popularité dans le monde musulman, à affronter directement Israël. Et puis enfin, sur la scène internationale, il y a des États qui pourraient jeter de l'huile sur le feu. Je pense à la Russie, par exemple, qui a tout intérêt à ce que le Proche-Orient s'enflamme, ce qui fera oublier la guerre en Ukraine.
Le thermomètre va grimper aujourd'hui.
Avec des températures dignes d'un mois de juin ou de juillet, on attend 25 degrés à Paris, jusqu'à 29 degrés, notamment dans le sud-ouest. Ça inquiète Bernard Hernandez, viticulteur dans l'Aude et membre du syndicat des vignerons. Les chaleurs l'obligent à traiter ses vignes.
Comme on a des yo-yo de température qui nous arrivent des fois, mais là c'est exceptionnel, on est obligé de surveiller la végétation et la chaleur de la journée fait pousser énormément les vignes et la nuit avec la baisse des températures, ça favorise le développement d'une maladie qui s'appelle l'oïdium et qui met en péril la récolte future. Hein. On est obligé de préserver le moindre raisin qui sort pour arriver à essayer d'amener la récolte au bout et essayer d'avoir un revenu, ce qui est compliqué depuis quelques années.
RMC 8h34 et on passe au sport avec la 29e journée de Ligue 1 qui a commencé avec la victoire de l'avant-dernier Metz 2-1 face à Lens.
Et aujourd'hui Strasbourg reçoit Reims à 17h et Toulouse se déplace à Rennes à 21h. Mais ce week-end, Paris, Lille et Marseille ne joueront pas. Leurs matchs respectifs auront lieu mercredi. Décision de la Ligue de football professionnelle pour mettre ces trois clubs dans les meilleures conditions pour leur quart de finale de Coupe d'Europe. Mais la Ligue 1 doit passer avant, regrette l'entraîneur du FC Nantes Antoine Comboiré.
Alors je comprends les arguments donc des clubs qui se maintiennent, qui jouent le maintien, et des clubs qui jouent la Coupe d'Europe. Mais là, c'est le problème de la Ligue. Ça donne des calendriers très compliqués, et là, ils se sont mis un peu en difficulté, la Ligue. Mais moi, je pense qu'il faut que la Ligue protège les matchs de Ligue 1, doit protéger son championnat.
Et puis des nouvelles de Léon Marchand, le nageur Léon Marchand qui va passer pro. Décision confirmée par son coach. Le quintuple champion du monde va quitter le championnat universitaire américain dans lequel il a quand même remporté 8 titres individuels avec les JO en tête évidemment. Hier, le Toulousain s'est donné un avant-goût de ce qu'il attend cet été. Il a remporté le 200 mètres papillon et le 400 mètres 4 nages.
Je suis content de commencer ma saison en grand bain. Plutôt content du 200 papillon hier au final. Ah, c'est mon meilleur temps en saison. C'est vraiment, vraiment pas mal et c'est bien de commencer par une compétition comme ça.
Bah tiens, puisqu'on parle des Jeux Olympiques, Clara, je rappelle qu'Emmanuel Macron sera l'invité d'Apolline lundi matin à partir de 8h20 pour parler des JO, de l'organisation, de la sécurité, de toutes les questions que vous vous posez. Vous pouvez d'ailleurs lui envoyer vos questions pour Emmanuel Macron à l'adresse suivante, vosquestions@rmc.fr. Et puis ce matin, je vous rappelle aussi, tiens, il est encore temps qu'on vous offre des places sur RMC pour les Jeux Olympiques, 100 places à remporter dans les shows d'RMC. J'en ai deux là à vous offrir. Vous envoyez Paris 2024 au 7-32-16, Paris 2024 au 7-32-16 et le premier gagnant de la journée sera avec nous à 9h08.
Et puis on l'a tous chez nous, cette bonne vieille boîte empoussiérée du Scrabble.
Vous avez oublié quelque chose ?
Merci beaucoup.
Vous aurez sans doute reconnu les bronzés fonds du ski. Oui, le Scrabble, 76 ans après sa création, qui va se faire peau neuve dans une nouvelle version du jeu, une version un peu plus coopérative. On pourra jouer par équipe, une version plus accessible pour ceux qui ne sont pas forcément très à l'aise avec le dictionnaire. Le but, c'est d'accomplir 20 défis. On pioche une carte défi, par exemple le fait de placer un mot de 5 lettres. Et puis si on a du mal, malgré tout, il y a des cartes pour être aidé, pour échanger des lettres par exemple avec
d'autres. Mais oui, mais c'est sympa, je suis sûre que parmi nos auditeurs, il y en a plein qui sont en train de jouer là pendant les vacances. Ça nous a bien aidé pendant les confinements, vous vous rappelez ?
Oui,
mes parents n'ont fait que ça. Ils sont beaucoup plus forts que moi, donc moi j'oublie, je laisse la boîte dans la poussière comme vous dites. Mais vous pouvez nous dire si vous êtes amateur de Scrabble en cette journée internationale, parce qu'il y a une journée internationale pour le Scrabble sur l'appli RMC au 32-16 évidemment. Merci Clara, vous restez avec nous dans un instant à 8h50 plutôt, le coup de main conso. Vous allez nous parler de téléphone reconditionné, c'est ça aujourd'hui ?
Oui, c'est une bonne affaire, mais attention, il faut faire attention à deux, trois petites choses avant d'en acheter.
Eh bien, rendez-vous 8h50 pour votre coup de main. D'abord, le yo-yo des températures qui pose question. Quelles conséquences sur nos cultures ? Sur la prolifération d'insectes notamment, comment s'adapter aussi au réchauffement climatique ? On sera avec l'agroclimatologue Serge Zaka pour en parler dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h30, la matinale week-end.
RMC, 6h30, 9h30, la matinale week-end.
Anaïs Castagna.
Il est 8h40 sur RMC, ravi de vous accompagner jusqu'à 9h30.
L'entretien RMC.
Et l'invité de l'entretien RMC ce matin, c'est vous, Serge Zaka, agroclimatologue, pour parler des variations de température et de leurs conséquences. Bonjour.
Bonjour à tous.
Après avoir chuté en début de semaine, les températures sont reparties à la hausse. Alors Serge Zaka, je viens vers vous dans un instant. D'abord le point avec vous, Marie Lafolas.
Oui, il y a 25 à Paris, 27 à Bourges, 28 à Bordeaux et Toulouse. Et on va même grimper jusqu'aux 29 degrés du côté de Montauban et Montélimar. Ça fait quand même très chaud.
Oui, et puis ça va à nouveau baisser. On ne sait plus sur quel pied danser, Serge Zaka. Question ce matin sur RMC. Est-ce qu'il faut s'en étonner ?
Alors, il ne faut pas forcément s'en étonner. On a l'habitude d'avoir de très grosses variations de température entre le matin, l'après-midi et même entre plusieurs journées. C'est le printemps et en automne, c'est tout à fait classique. Alors, c'est vrai que là, les variations sont très rapides et très importantes. Alors, on va voir que ça n'a pas forcément d'impact sur les écosystèmes, les variations. C'est plus les valeurs qui sont atteintes aux extrêmes bas et aux extrêmes hauts qui sont importantes.
Je n'ai pas le souvenir, moi, de telles montagnes russes au printemps, mais peut-être que... Peut-être que je me trompe, c'est les extrémités en fait qui sont étonnantes. C'est ce que vous nous dites ce matin. C'est la conséquence du réchauffement climatique.
Alors pas forcément les variations en elles-mêmes. Il faut savoir que, par exemple, en 2021, par exemple, on avait perdu moins 32 degrés en 5 jours sur la France, donc les variations étaient encore plus importantes. On peut donner d'autres exemples d'autres années beaucoup plus tôt, hein, dans le siècle passé. Les conséquences du changement climatique se verront plutôt sur les extrêmes qui sont atteints, puisque, par exemple, le week-end dernier, on a atteint 33,9 degrés à Navarinx, au pied des Pyrénées, qui constitue d'ailleurs le nouveau record national. Plus d'air a été atteint en début de mois, la partie la plus fraîche du mois normalement, il fait plus chaud normalement au fin de mois d'avril.
Alors, est-ce que ça va avoir des conséquences sur les récoltes de fruits abîmés, des plantes, favoriser le développement de maladies, la prolifération d'insectes, concrètement ?
Concrètement, alors ça va être très concret. Ce qu'on observe, c'est que la douceur ne concerne pas que le mois d'avril. Hein. On vit le début d'année le plus chaud jamais observé pour l'instant. En 2024, encore plus chaud que 2022 et encore plus chaud que 2023. Ça fait depuis le 22 janvier que la France est régulièrement au-dessus des normes. Et là, en avril, ce qui se passe, c'est que on fait effectivement des yo-yo, mais quand on descend bas, en fait, on arrive juste au normal de saison. Les jours où il a fait un petit peu frais ces derniers jours-là, c'est le temps qu'il devrait faire mi-avril. C'est vraiment les extrêmes hauts qui sont très étonnants et qui sont certainement dus à l'impact du climat, notamment leur répétition, leur fréquence et leur intensité. Alors, les extrêmes hauts ont tendance à favoriser le développement de la végétation, qui est déjà très en avance à cause de la douceur qu'on a depuis le mois de janvier. Et ça devient problématique, puisque la floraison de certains arbres a lieu parfois avec un mois d'avance, notamment pour l'arboriculture. Nos blés ont à peu près 3 semaines à un mois d'avance. Alors vous allez me dire, c'est agréable que ça fleurisse un petit peu plus tôt. En réalité, non. Puisque, par exemple, lorsque le bourgeon est fermé, la plante peut résister jusqu'à moins 18, moins 20 degrés. Lorsque le bourgeon vient de s'ouvrir, c'est à peu près moins 3, moins 4. Lorsqu'on est en fleur, c'est moins 2. Et lorsqu'on est au stade petit fruit, qui est le stade actuellement en avril, alors qu'il devrait être en mai, eh bien, on résiste à moins 0,5. C'est la sensibilité au gel qui évolue avec l'avancée des plantes.
Et ça favorise le développement de maladies. On entend ce matin sur RMC des vignerons qui nous disent moi j'ai été obligé de traiter plus tôt cette année.
Exactement. Alors je terminerai pour les risques de gel aussi, parce qu'il y a aussi les extrêmes bas dans ces variations. La problématique, c'est pas autant le développement des végétaux, c'est s'il y a du gel qui arrive derrière. Et à partir du 17 avril, on a une semaine à peu près où on a des risques de gel dans le nord de la France. Et les plantes en sont très sensibles, malheureusement, à cause du développement. Tandis que les maladies, alors là, on a trois facteurs qui déterminent les maladies au printemps. Le premier facteur, c'est le gel en hiver. Et effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de gel en hiver. Puis le gel n'a pas nettoyé, entre guillemets, les parcelles. Il y a encore beaucoup d'œufs d'insectes et il y a encore beaucoup de champignons dans les parcelles de l'année précédente, puisque le gel n'était pas très présent. Ensuite, on a eu beaucoup de pluie, c'est le deuxième facteur. Il faut de l'eau pour les maladies, pour le développement des insectes. Et il ne restait plus que ce troisième facteur qui est la douceur. Et là, on a le combo parfait. Maintenant, on a l'ensemble des trois facteurs pour que les maladies se développent. Et le risque maladie est très, très important en ce début d'année, et encore plus précoce, puisque les feuilles sont sorties plus tôt. Donc, elles peuvent être attaquées plus tôt.
Il y a peut-être aussi des conséquences positives, non ?
Alors, il peut y avoir des conséquences positives, notamment on a un excès d'eau dans les cultures, là, dans les parcelles, qui fait que les machineries agricoles ne pouvaient pas s'introduire dans les parcelles puisqu'elles s'embourbaient. Le fait d'avoir de la douceur et surtout le fait de ne pas avoir de pluie entraîne le fait que les parcelles s'assèchent, l'évaporation, la transpiration augmente avec la température. Donc les agriculteurs peuvent de nouveau, dans certaines régions, entrer dans les parcelles pour effectuer les semis de printemps. On va dire que c'est un petit peu la seule conséquence positive pour l'agriculture.
En tout cas, ça pose question pour le futur. J'imagine que les producteurs vont devoir s'adapter, planter peut-être de nouvelles espèces, de nouveaux fruits.
Exactement. Alors, le but dans l'avenir, c'est de décaler cette période de floraison pour la recaler avec le changement climatique, pour éviter les risques de gel. C'est paradoxal parce qu'en fait, dans un contexte de changement climatique, on a plus de risques de dégâts dus au gel alors qu'il fait plus doux. Mais le problème, ce n'est pas le gel, c'est la douceur hivernale qui fait que les végétaux se réveillent plus tôt. Alors l'objectif, ça va être soit d'avoir de nouvelles variétés. Par exemple, on garde un abricot, mais on passe sur une autre variété d'abricot. On garde un pommier, on passe sur une autre variété de pommier. Pour décaler ces dates de floraison, Mais il faut savoir qu'aussi ces nouvelles variétés doivent être adaptées aux chaleurs et aux sécheresses en été. Donc ça réduit un petit peu le potentiel.
Et puis on peut changer totalement de fruits. Je voyais qu'on me disait que vous travaillez par exemple avec le ministère de l'Agriculture pour penser au développement de nouvelles filières. À Cavaillon, par exemple, des producteurs remplacent leurs vignes et l'abricot par de la pistache, c'est ça ?
Exactement. En fait, la pistache, c'est une des dernières solutions, c'est de changer complètement de filière. Alors, il faut quand même mettre les moyens pour créer ces filières sur le terrain. C'est pas seulement les agriculteurs qui doivent le faire. Par exemple, la pistache, elle va fleurir 2 semaines plus tard que l'abricot et elle va être beaucoup plus résistante qu'aux sécheresses et aux canicules que l'abricot. Et donc, on peut se tourner vers ces nouvelles espèces. Alors, on peut avoir la pistache, on peut avoir la figue de Barbarie, on peut avoir l'olive qui remonte un peu plus au nord. La nèfle, le kaki, la grenade et bien d'autres fruits qu'on retrouvera en France d'ici 2050 avec des nouvelles filières, peut-être de nouveaux AOC, de nouveaux IGP dans l'avenir.
Vous encouragez les producteurs à y réfléchir très clairement ce matin ?
Exactement. C'est une des principales solutions au changement climatique. Il faut travailler bien sûr sur, par exemple, le numérique, de travailler sur la génétique, de travailler sur le sol, de travailler sur les paysages. Mais il ne faut pas oublier de travailler sur les filières. C'est peut-être le travail le plus difficile en réalité, qu'on repousse régulièrement. C'est le plus difficile parce qu'il faut investir pour la consommation, la transformation, la production, le stockage. Et c'est beaucoup, en fait, de travail derrière. Mais c'est l'un des principaux aspects, c'est vraiment de changer de culture, de
produits. Et leur donner les moyens de le faire aussi, vous l'avez dit.
Et surtout leur donner les moyens de le faire et surtout les accompagner. Les producteurs, le plus simple en réalité, c'est de tenter un pistachier et de récolter les pistaches. Alors que c'est déjà assez compliqué, mais déjà, c'est vraiment plus simple dans la filière. Après, il faut savoir le récolter, le stocker, le consommer, le vendre, le transformer. Et tout ça, il faut toute une filière économique derrière. Mmh. Et pour mettre en place une filière économique, il faut au minimum 30 ans.
Ah oui.
C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, c'est dès aujourd'hui, dès maintenant, qu'il faut commencer à réfléchir à ces filières.
Merci Serge Zaka d'avoir fait le point avec nous ce matin sur RMC. Il est 8h49, vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant, à tout de suite.
RMC, la matinale week-end.
Anaïs Castagna.
Allez, les 8h50 et c'est Taylor Swift qui vous réveille ce matin sur RMC. Pourquoi ? Eh bien parce que les tubes de la chanteuse américaine sont de retour sur TikTok. On va y revenir dans 2 minutes dans le bonus RMC. Mais d'abord...
RMC.
Le coup de main conso.
RMC s'engage pour votre pouvoir d'achat. Comment faire des économies au quotidien avec Clara Gabillet. Et ce matin, Clara, rebonjour.
Rebonjour.
On va parler smartphone reconditionné. Ça a beaucoup de succès en France. 1 smartphone sur 5 est d'occasion. D'abord parce que c'est pas cher, évidemment. Et plus écolo que d'acheter du neuf. Mais il y a 2-3 choses quand même à savoir avant de se lancer.
Eh bien oui, d'abord pour commencer, il faut savoir où chercher. Ça semble évident. Mais il existe de nombreuses plateformes sur Internet. On peut s'y perdre. Elle propose des téléphones reconditionnés. Là, on parle de téléphones réparés, hein, remis quasi à neuf. Vous connaissez sûrement la très connue Back Market, mais il en existe d'autres, notamment des françaises comme Smart, Yes Yes ou Largo.
Et justement, l'association UFC Que Choisir a passé au peigne fin 6 grands vendeurs connus.
Oui, pour évaluer la constance de la qualité des téléphones. Et Back Market, dont on parlait, arrive en dernière position à cause d'absence de mise à jour, par exemple, ou de manque de luminosité sur les écrans. À l'inverse, le reconditionneur Smart est premier, notamment car la majorité des téléphones achetés étaient raccord avec l'annonce. Tout l'enjeu, c'est de comprendre à quelle plateforme on a affaire. Il y a les vrais reconditionneurs comme Yes Yes ou Smart et ceux qui font juste l'intermédiaire entre reconditionneurs et des acheteurs comme Back Market. Camille Gruyer est la journaliste à l'origine de cette enquête.
À qui on s'adresse en réalité, et même si on veut s'adresser à Back Market, bah allez voir, c'est écrit quelque part sur la page, en bas à droite, vous avez le nom du reconditionneur, ça nous empêche d'aller voir où il est situé, et puis de chercher un peu d'informations sur lui, ou un reconditionneur basé en France. Là, vous aurez un numéro de téléphone, un SAV, ce sera beaucoup plus simple en cas de problème.
Alors, c'est important, bien sûr, de comparer les sites entre eux. On peut gagner jusqu'à quelques dizaines d'euros entre chaque site, ça dépend.
Et il faut aussi être attentif quand on choisit le modèle.
Il y a beaucoup de choix sur les sites. Il y a les iPhones, les Samsung, et puis on a plusieurs prix en fonction de l'état du téléphone. Plus le téléphone est abîmé, moins le téléphone est cher. On peut choisir un grade A, B ou C. C'est tout l'enjeu, en fait, d'avoir conscience de ce qu'on va acheter, selon Camille Gruyer.
Parfois, les gens ont un petit peu du mal aussi à admettre que bah, c'est moins cher, mais c'est aussi un petit peu moins bien. Ils sont tous fonctionnels, certes. Mais après, il faut accepter que la batterie ne soit qu'à 85% de sa capacité maximum.
En tout cas, ça reste une façon de faire des bonnes affaires. Ça permet, par exemple, d'acheter du haut de gamme, ce qu'on n'aurait pas forcément fait avec un prix neuf. Avec du reconditionné, on va jusqu'à 40% moins cher du prix initial.
Merci beaucoup, Clara. Votre coup de main conso à retrouver en podcast sur l'appli RMC.
La matinale week-end.
Le bonus RMC.
Avec vous, Marie Lafolas, et ce matin, vous nous parlez d'une des chanteuses les plus populaires, si ce n'est la chanteuse la plus populaire, de retour sur TikTok. Enfin, ses tubes sont de retour sur TikTok.
Oui.
Allez, shake it up, shake it up.
Voilà.
Dès le matin, ça fait plaisir, Anaïs, non ?
Bien sûr. Je pense à ma fille qui est fan de Taylor Swift.
Et dont c'est l'anniversaire.
Oui,
voilà,
joyeux anniversaire.
Elle va être très contente d'entendre ça ce matin. Parce que ça y est, les fans de Taylor Swift peuvent à nouveau respirer depuis hier. Parce que les morceaux de la chanteuse sont de retour sur TikTok après presque 3 mois d'absence. Une absence due à un désaccord en fait entre la plateforme chinoise et le label Universal Music Group qui avait retiré tout son catalogue musical, estimant que TikTok ne payait pas assez l'exploitation des chansons. Alors 3 mois plus tard, c'est toujours le même constat pour le label qui n'accepte toujours pas de remettre ses artistes dans la liste des musiques qu'on peut utiliser. Mais la chanteuse aurait, elle, conclu un nouvel accord selon la BBC, et ce pour le plus grand plaisir des utilisateurs qui pourront à nouveau suivre les différentes trends, parce que c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Parmi les sons les plus utilisés, on retrouve évidemment White the Stream. Et surtout Love Story. Parce que c'est vrai que ça a été la mode de se fiancer sur cette musique pendant un concert de Taylor Swift et de poster la vidéo sur TikTok. Il y a eu presque 700 000 publications, 700 000 potentiels mariages là, qui vont arriver prochainement.
Oui. Bah, oui, j'attends de voir. Parce que c'est facile de faire une petite vidéo, une petite mise en scène. Mais
oui, c'est vrai. Non, mais ça a vraiment l'air d'être des vraies demandes en mariage. Ah, ouais. Et d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de mariés qui la mettent à leur mariage, qui font une choré avec, avec leurs invités.
Vous mettez peut-être, Marie, on ne se connaît pas assez.
Alors, je ne suis pas du tout là-dedans pour l'instant. Mais j'y penserai, merci beaucoup Anaïs. Mais les internautes ne sont pas les seuls à diffuser sa musique. La chanteuse elle-même utilise la plateforme pour promouvoir ses nouveaux titres, mais aussi son prochain album qui sortira le 19 avril, et surtout sa tournée internationale avec plusieurs dates en France. Les fans français pourront la voir les 9, 10, 11 et 12 mai prochains à Paris, à la Défense Arena, les 2 et 3 juin au Groupama Stadium de Lyon. Et pour ceux qui n'auraient pas la chance d'avoir des places, vous pourrez revoir les vidéos de ses concerts sur TikTok, évidemment.
Taylor Swift qui a une influence considérable, elle est en une de Libération ce week-end. Peut-elle faire perdre Trump, artiste de tous les records? La chanteuse américaine s'attire les foudres des supporters de Donald Trump qui redoutent son influence sur la présidentielle de novembre. C'est-à-dire aujourd'hui dans Libération, et on a donc ce chiffre, 200 millions d'albums vendus dans le monde. Ça donne le tournis. Il est 8h56, vous écoutez RMC.
La matinale week-end.